RCF.
Oh, des journées comme ça, je te jure. Hein.
Non, attends, profite un peu.
Ah, je pète le feu.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans notre espace détente et culture de fin d'après-midi radiophonique. Alors, à l'affiche aujourd'hui, elle a la réputation de donner bonne mine et bon caractère. Elle, c'est la carotte, mais elle n'a pas toujours été orange. Pourquoi ? Explication haute en couleur de Viviane Perret dans notre rendez-vous complément d'objet. Et puis, une jeune avocate interdite d'exercer parce qu'elle est une femme, mais qui n'est pas prête de battre en retraite pour autant, c'est Lydia Fessalois, la série italienne coup de cœur cette semaine de Pauline Arrêt. Battre en retraite, mais aussi prendre la clé des champs, faire des comptes d'apothicaire ou déclarer qu'impossible n'est pas français. Autant d'expressions qu'on a tous entendues ou utilisées, mais d'où viennent-elles ? Eh bien, notre invitée va monter au créneau pour nous le révéler. Bonjour Nathalie Gendreau.
Bonjour.
Merci d'être arrivée à bon port dans nos studios. Alors Nathalie Gendreau, vous êtes romancière et metteuse en scène dans le milieu lyrique et théâtral. Et avec Guillaume Meurice, auteur et humoriste, vous avez publié chez Flammarion le fin mot de l'histoire, pardon. Soit 200 expressions tombées dans le langage courant, 201 expressions précisément à connaître pour épater la galerie. C'est le sous-titre. Alors tout de suite, exercice pratique, épater la galerie, ça vient d'où ?
Alors, épater la galerie, tout d'abord, ça veut dire faire de l'esbrouf, hein, bien sûr. Et donc, en fait, ça vient du monde du cabotinage, c'est-à-dire quelle galerie on épate. En fait, ça vient du monde du théâtre, hein, tout simplement. C'est la galerie, la corbeille du théâtre. Puis la galerie du jeu de paume, qui est un peu surélevée par rapport aux joueurs.
Et donc, il fallait donc épater la galerie, la divertir, l'amuser. C'est de là d'où vient l'expression ?
Il faut amuser le public, et cela, on parle de l'an 1500, donc ouais. Ça fait 500 ans qu'on épate la galerie.
500 ans qu'on épate la galerie. Voilà pour ce premier aperçu. Alors avec vous, on va détailler quelques-unes de ces expressions avec leur origine. Certaines sont d'ailleurs assez surprenantes. Toudou, qui nous aime, nous suivent, c'est parti.
Toudou, avec Vincent Belletti.
L'important, c'est la rose, l'important.
Voilà, l'important c'est la rose, chantait Gilbert Bécaud, ce qui n'était pas non plus une ode au socialisme de l'époque. Rose, comme découvrir le poteau rose, qui est l'une des expressions qu'on retrouve dans votre livre. D'où ça vient donc ce fameux poteau rose, Nathalie ?
En fait, il y a plusieurs origines, comme souvent. Là, c'est une expression très ancienne qui naît à peu près en 1300. Mmh. En fait, le poteau rose, c'est probablement un pot d'eau de rose qu'on utilisait beaucoup en cosmétique médiévale. Et c'est une fragrance qui est assez fragile. Il faut garder le pot bien fermé. Mmh. Si on l'ouvre, on évente le parfum. Mmh. Et donc, découvrir, étymologiquement, c'est retirer le couvercle. Découvrir le pot, ça peut tout simplement éventer le parfum. Mais la rose, en fait, faut pas oublier que c'est une fleur qui est hautement symbolique, aussi bien dans le monde chrétien que dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, c'est une fleur qui avait déjà une connotation de secret, de langue tenue. Mmh. Par exemple, dans les banquets dans l'Antiquité, on mettait des colliers de roses aux convives pour qu'ils évitent de dire n'importe quoi.
Oui.
En ayant trop bu.
Pour pas se faire envoyer sur les roses avec le langage qu'ils pourraient tenir. Oui. Et donc, il y avait cette connotation de secret, vous dites ?
Oui, et puis ça se poursuit hein, après dans le temps, et notamment il y a un pape ensuite qui fait graver sur les confessionnaux des roses, parce que un propos tenu sous brosa, sous la rose, est un propos qui est tenu au secret.
Et donc découvrir le poteau rose, c'est donc par extension, c'est devenu découvrir un secret, découvrir même par extension aussi un scandale, et comme l'a souligné avec Mali S. Guillaume Meurice, découvrir le poteau vin, c'est par contre l'apanage d'Élise Louise Lucet. Découvrir le sens et l'histoire de ces expressions. Bien, on va le faire avec vous, mais d'abord un petit retour en arrière. Nathalie Gendreau, vous avez été diplômée en littérature générale et comparée à Paris-Sorbonne avant de travailler ensuite dans la mise en scène de théâtre et d'opéra un petit peu partout en France et à l'étranger. Vous avez également publié Le Monde Sensible, votre premier roman 2016, suivi de 150 expressions pour cultiver son jardin ou prendre la vie du bon côté. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous prendre au mot, hein, de les mettre en scène, si je puis dire?
Oui, bah c'est effectivement, j'avais la possibilité de le faire parce que j'ai un parcours classique, vraiment d'études classiques, et donc j'ai fait beaucoup d'anciens français. Et donc quand les éditions du Robert ont cherché un auteur contemporain pour un peu, comme vous dites, mettre en scène les explications étymologiques de manière un peu renouvelée. Ils ont fait appel à moi et effectivement, on a fait plusieurs livres ensemble sur les expressions dans plusieurs univers. On a fait ça donc sur les plantes, des expressions plutôt dans le monde de la philosophie ou de la philosophie de vie. Voilà, on en a fait plusieurs.
Et donc ça vous a intéressé. Alors comment vous est venue l'idée aussi de ce nouvel ouvrage avec Guillaume Meurice? C'est l'occasion qui fait le larron de fait de se rencontrer tous les deux.
Oui, exactement. L'éditrice, encore une fois, hein, c'est elle qui nous a réunis. Elle cherchait un duo intéressant pour défendre ce sujet. Et il se trouve effectivement qu'elle avait envie d'un auteur ou d'une autrice qui puisse le défendre avec un vrai fond, mais aussi avec un background d'écriture, quoi, de roman. Et parce qu'il se trouve aussi que Guillaume Meurice, il est humoriste, mais il est aussi romancier. Donc voilà, ce qui est intéressant dans notre duo, c'est qu'on est tous les deux vraiment dans le monde de l'écriture.
Et puis là aussi, cet œil sur l'actualité. Ouais, l'œil sur l'actualité, parce que c'est bourré de références, de ces expressions à des événements qu'on a pu connaître tout récemment. Alors, 201 expressions triées sur le volet, dont vous retracez les origines et réactualisées. Ça va d'avoir le béguin, être sur le pont, passant par la perfide Albion, payer en monnaie de singe, défendre son précaré. Est-ce qu'on peut donner quelques grands domaines d'origine de toutes ces expressions? Je sais pas moi, la religion, par exemple, la santé, les animaux, enfin, ça vient d'où?
Oui, mais en fait, comme vous l'avez très bien dit, c'est lié à l'actualité. En fait, il faut penser que les expressions, elles naissent souvent par des d'expériences très fortes de l'histoire, et donc tout l'intérêt, en fait, je trouve d'une étude comme ce livre, c'est de rappeler que parfois, effectivement, les expressions s'émoussent un peu, elles perdent un petit peu leur puissance.
Sens, ou leur sens d'origine
Ou on a complètement oublié leur sens, mais aussi c'est parfois vraiment des coups de poing linguistiques. Et donc aussi l'intérêt, je trouve, de l'apport de Guillaume Meurice et de les réactualiser, c'est que ça rappelle ça, c'est que ça naît vraiment d'expériences fortes dans l'histoire. Notamment, en fait, j'ai remarqué que les expressions, elles émanent souvent de grandes périodes, la période révolutionnaire, l'Empire, l'imaginaire du Moyen-Âge.
Et puis aussi pas mal de guerres, hein. Repartir comme en 14, allusion à la montée au front de la Première Guerre mondiale, battre la chamade étant le roulement de tambour de trompette en forme d'alerte quand un fort était assiégé, ou encore cette bonne guerre, hein, concept du XVIe siècle pour désigner un conflit selon les règles de la chevalerie, quoiqu'aujourd'hui, entre bonne ou mauvaise guerre, hein, ça reste quand même toujours une guerre. On va explorer quelques-uns de ces domaines avec vous, Nathalie Gendreau, à commencer justement par le nerf de la guerre.
Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment.
Ouais, et du coup?
Du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain il a des trucs, et moi aussi je voudrais des trucs.
Et du coup je suis content.
Voilà, petite chanson, la gloire des thunes qu'on doit à l'humoriste franco-portugais David Castelo Lopez, que vous citez dans votre livre. Thune pour désigner l'argent, la monnaie. D'où vient ce mot thune, Nathalie Gendreau?
C'est un jeu de mots. Oui. C'est un jeu de mots à partir du roi de Tunis, un très ancien roi, le roi de Tunis, le roi de Thunes. Et puis en même temps, étymologiquement, c'est une aumône. En fait, c'est une origine relativement obscure. On a plusieurs hypothèses, mais il faut savoir que la thune, c'est le nom du roi peut-être imaginaire, peut-être qu'il a existé, de la Cour des Miracles. Donc c'est une bande de brigands qui œuvraient dans les bas-fonds parisiens au XVIIe siècle et qu'on retrouve chez Victor Hugo. Mais Victor Hugo déplace l'anecdote puisqu'il le met au Moyen-Âge dans Notre-Dame de Paris. Mais en réalité, voilà, la Cour des Miracles, c'est plutôt sous Louis XIV.
Et thune, donc, ça signifiait donc l'argent. Être pété de thune, c'est avoir beaucoup d'argent, hein, si je reprends l'expression.
C'est ça. Ouais. Et en réalité, c'est l'argent, mais au départ, c'était une aumône étymologiquement. Puis, et les Suisses, puisque vous avez cité David Castel-Lopez, les Suisses appellent encore une pièce de monnaie, celle de 5 francs, la thune.
La thune. Autre expression concernant l'argent, vous n'en êtes pas avare, hein, Nathalie Gendreau, vous en donnez plein, comme jeter l'argent par les fenêtres, espèce sonnante et trébuchante, de bon aloi, qui voulait dire de bon alliage, hein, pour une pièce de monnaie. D'où vient quand même l'expression comme quoi l'argent n'a pas d'odeur?
Alors ça, c'est une origine antique. Donc ça nous remonte à Vespasien. Donc il faut voilà imaginer que c'est un empereur qui succède à Néron et son prédécesseur a vidé les caisses de l'État. Il faut trouver des sous. Et donc, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme tout le monde, il crée un nouvel impôt.
Voilà. Et donc cet impôt donc, était à partir de quoi?
Un impôt particulier qui a fait rire beaucoup de monde puisque c'est un impôt sur l'urine, en particulier en réalité sur la récolte d'urine dans les rues. C'est-à-dire qu'il a inventé un système pour les teinturiers d'amphores disposées dans les rues et les gens pouvaient en disposer pour se soulager.
Il devait payer un impôt alors là-dessus.
Et voilà, il devait payer un impôt. Les récoltants devaient payer un impôt pour en profiter pour les teintures. Donc. Et il se trouve qu'après, la rumeur a un peu déformé l'anecdote et Vespasien a été transformé en inventeur des toilettes publiques, mais ça n'est pas exactement le cas.
Et donc, l'argent n'a pas d'odeur, ça vient donc de cette odeur d'urine, alors, si je puis dire.
Oui, finalement, ça a toujours fait rire tout le monde. Et dès l'Antiquité, il y avait un dicton qui disait « Pecunia non olet », l'argent ne sent rien. Et puis voilà, c'est resté dans les mémoires.
Voilà, un impôt pour avoir du liquide, hein, si je puis dire. Et si l'argent n'a pas d'odeur, ça ne l'empêche pas parfois d'être sale et d'être obligé de le blanchir, ce qui était une autre histoire. On va continuer de détailler quelques-unes de ces expressions, notamment en rapport avec des lieux ou la religion, mais ce sera juste après une première page musicale que vous nous proposez. Et en l'occurrence, c'est Serge Gainsbourg, Aux armes, etc. Pourquoi ce choix réguerrier, si je puis dire, Nathalie Gendreau?
Bon, c'est une suggestion parce que les expressions qui émanent de l'histoire, malheureusement, en fait, elles émanent des expériences fortes, c'est-à-dire des guerres. En réalité, on a énormément d'expressions qu'on n'utilise plus du tout dans un contexte guerrier aujourd'hui. Par exemple, sans tambour ni trompette ou
branle-bas de combat.
Branle-bas de combat. Alors ça, c'est plutôt la marine, mais effectivement, c'est des combats sur l'eau. Et en fait, on en utilise énormément tout le temps. On utilise un vocabulaire guerrier, mais qui est détourné, un peu comme l'a fait Gainsbourg.
Aux armes, etc. On réécoute Gainsbourg et on se retrouve tout de suite après pour continuer à explorer toutes les origines de ces expressions.
Liberté chérie, combat avec tes défenses. trace de leur vertu.
Aux armes, etc. Le choix gainsbourgien de Nathalie Gendreau, romancière, metteuse en scène, co-auteur avec Guillaume Meuriste de 201 expressions à connaître pour épater la galerie. C'est publié chez Flammarion. Alors, dans ces expressions, il y a des origines bien particulières liées notamment à des lieux comme par exemple ceci.
Une France sans transport, sans service, sans école et un mouvement qui pourrait être reconductible. C'est ce qu'ont annoncé les syndicats de la RATP et de la SNCF opposés à la réforme des retraites.
Voilà, sur fond de fumigène, mot combien d'actualité, grève, avec cette annonce de cessation de travail dès le 7 mars dans les transports, écoles et énergie. Être en grève, d'où vient l'expression, Nathalie Gendreau? C'est pas la CGT qui l'a inventée, on est bien d'accord?
Non, c'est beaucoup plus ancien. En fait, c'est une origine parisienne. En fait, être en grève, c'est être géographiquement sur le lieu d'une grève, c'est-à-dire un lieu où près d'un cours d'eau qui est jonché de gravats, de graviers. Et en fait, ce lieu, précisément, c'est la place de grève à Paris, aujourd'hui appelée la place de l'Hôtel de Ville. Et cette place s'appelait depuis 1260 la place de grève. Et qu'est-ce qu'on y faisait pendant de 5 siècles? On y a trucidé des gens de beaucoup de manières. Hein. On les a écartelés, on les a pendus, guillotinés, suppliciés au plomb fondu. Enfin, on a eu
toutes
beaucoup
ces
d'imagination.
Joyeusetés, on avait pas mal d'imagination, effectivement, pour trucider son prochain. Et donc.
Et donc, en fait, c'était, vous l'avez compris, un lieu d'exécution publique et d'exécution publique importante, normalement. Donc, les gens venaient en masse pour y assister et puis éventuellement emporter un morceau du condamné, parce que c'est
un petit souvenir. Oui. On a les souvenirs qu'on se fait, hein, qu'on se veut. Et donc, quel rapport avec le travail, alors?
Et en fait, c'est une place qui a toujours été un lieu de rassemblement populaire très important. Et donc, au XIXe siècle, avec l'industrialisation, elle change de métier, cette place, parce que finalement, en 1822, on arrête d'exécuter les gens. Et c'est les ouvriers qui s'y regroupent pour protester. Et puis surtout pour en fait réclamer un meilleur salaire journalier et refuser de retourner au travail si on ne les augmente pas. Et puis, quelques années après, ça a été aussi pour chercher du travail, pour attendre l'embauche. Mmh. On venait sur la place de grève pour se faire embaucher. Puis rapidement, avec les grandes grèves du 19e siècle, être en grève a pris le sens d'aujourd'hui.
D'arrêter le travail. Alors, d'autres expressions liées à des lieux, on en retrouve dans votre livre, comme c'est la Bérézina, qui rappelle cette rivière de Russie, où la grande armée napoléonienne s'est retrouvée acculée en novembre 1812. Le coup de Trafalgar, défaite maritime. Team surprise, là aussi liée à Napoléon. Et puis il y avait aussi d'autres lieux que je retrouve, comme la Cour des Miracles, hein, vous l'avez cité, cet espace clos et hiérarchisé où se retrouvaient voleurs, mendiants et faux estropiés qui, comme par miracle, eh bien, retrouvaient leurs jambes ou leurs yeux en quittant les lieux. Mais il y a aussi être limogé, et cette expression elle a un rapport avec Limoges, la ville bien connue pour sa porcelaine, mais pas seulement. Expliquez-nous le rapport entre être limogé, renvoyé et le chef-lieu de Haute-Vienne.
C'est une boutade en fait des militaires. Donc il faut remonter à la Première Guerre mondiale et à la mobilisation en 1914. On appelle des généraux à la retraite, des commandants qui avaient déjà arrêté de travailler. Et puis on a les premières défaites et ça fait fulminer le généralissime Joffre qui attribue les défaites aux commandants incapables. Et donc, il décide de révoquer presque la moitié, 40% des commandants, et de les assigner à résidence et de s'en débarrasser loin du front. Loin du front, loin de l'action, et donc ce sera Limoges. Donc, ils sont rangés à Limoges.
Donc, mis complètement à l'écart à Limoges. Alors, c'est vraiment que c'est pas très flatteur pour la ville, mais ils n'envoyaient pas qu'à Limoges, hein, vous le dites aussi. Il y avait d'autres villes de France où on envoyait les généraux indélicats.
Oui, en réalité, on les a envoyés aussi dans la Haute-Vienne, la Creuse, voilà, d'autres régions. Et puis, au départ, voilà, c'était une boutade de militaires pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, on l'a récupéré.
Voilà pour l'origine de cette expression qui ne rend pas honneur à Limoges, qui a pourtant été citée comme ville créative par l'UNESCO. Il faut aussi quand même le rappeler. Alors, autre grande origine de ces expressions, eh bien, c'est la religion. Voilà, le cœur des moines de l'abbaye de Tamiers, des moines qui peuvent avoir droit au chapitre, c'est-à-dire celui de pouvoir s'exprimer en une certaine occasion, mais aussi la mise à l'index, cette censure pontificale, la croix et la bannière, expression dérivée des croisades, autant d'expressions d'origine religieuse qui sont tombées dans le langage courant et qui sont citées dans votre livre. Alors, il y a quand même une expression qui mérite d'être expliquée, c'est ne pas être en odeur de sainteté. D'où ça vient cette odeur, Nathalie Gendreau?
Alors ça, c'est une expression particulièrement intéressante parce qu'elle remonte à vraiment très loin. Pour le coup, on est autour de l'an 1000, au moment où les docteurs de l'Église ont décidé d'où vient l'âme et qu'est-ce que l'âme. Ils ont décidé que c'était un souffle divin qui entre dans l'embryon au moment où l'embryon se forme. Croit dans notre traître toute la vie, poursuit son développement et s'échappe de notre corps au moment du dernier souffle. Et le dernier souffle que nous produisons au moment de mourir, dans certains cas, dans le cas des saints, a une bonne odeur, apparemment. Et donc c'est une preuve de sainteté si le dernier souffle
sent bon. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si c'était le cas de tout le monde. En tout cas, ça vient de là, donc.
Et ça vient de là. C'est devenu en fait un peu ironiquement une expression pour dire que les gens sont bien vus quelque part. Être en odeur de sainteté, c'est être bien accueilli, bien vu. Comme si on était un saint.
Voilà, Nathalie Gendreau, ne rendez pas encore votre dernier souffle, hein, puisque dans un instant, on continuera d'expliquer l'origine d'autres expressions. Mais le mardi, nous aussi, dans cette émission, on recherche d'où viennent certains objets de notre quotidien. C'est avec Viviane Perret. Elle est historienne et écrivain. Et aujourd'hui, c'est d'un légume dont il va s'agir.
Tout doux, complément d'objet.
C'est avec la tomate, le légume préféré des Français, et pour cause, elle nous promet régulièrement des joues roses et un caractère aimable. Elle, c'est la carotte. Bonjour Viviane, alors d'où vient donc d'abord la carotte?
Cette racine, originaire d'Asie mineure et connue depuis l'Antiquité, est européenne depuis plus de 5000 ans. Un œil averti la reconnaîtra, ou du moins son ancêtre, sous sa forme sauvage. Elle continue à pousser sur les bords des chemins.
La carotte est donc depuis longtemps dans nos assiettes, mais est-ce qu'elle avait le même goût qu'aujourd'hui?
Eh bien Vincent, elle n'en avait ni le même goût, ni la même couleur. La carotte qu'on consommait dans les écuelles des Gaulois, des Slaves, des Germains, mais aussi des Grecs et des Romains, était une racine longue, fine, presque ligneuse et surtout décolorée, blanchâtre ou jaunâtre. Elle avait souvent une valeur thérapeutique plus que culinaire. Au Moyen-Âge, comme elle était bon marché, elle était appréciée par le petit peuple. Son goût s'apparentait à une épice.
Alors une épice en forme de racine décolorée, est-ce qu'on parle vraiment toujours de la carotte, Liane?
Oui, mais on ne l'appelait même pas carotte. Elle entrait sous le vocable plus générique de pastenade, un terme désignant à l'époque les racines blanches plus ou moins charnues. Petit à petit, on voit arriver sur le marché des variétés blanches, jaunes, mais aussi noires, rouges et violettes. Mais toujours pas de carottes oranges. Pour cela, il faudra attendre le XVIe siècle.
Et pour l'appeler carotte ou qu'elle soit orange?
Les deux, mon capitaine. Au XVIe siècle, le mot carotte entre dans nos dictionnaires. La carotte jaune prenait plutôt le dessus sur la carotte rouge dans le panier de la ménagère française. Mais aux Pays-Bas, on commençait à cultiver une variété issue de croisements de carottes rouges et de carottes blanches. Que croyez-vous qu'il arriva?
Eh ben, je sais pas, une infraction au code de la route. La carotte était passée à l'orange.
La carotte était effectivement devenue orange par croisement ou par mutation. Mais attention, cela n'a été possible que parce que l'on pouvait enfin désigner sa couleur. Car le mot orange pour désigner une couleur entre le rouge et le jaune n'est apparu dans le vocabulaire que dans les années 1500. Auparavant, il ne désignait que le fruit.
Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à produire des carottes oranges?
La tradition déclare que les Néerlandais ont créé les carottes oranges en hommage au prince d'Orange qui avait mené le pays à l'indépendance. C'est probablement faux, mais ça n'a pas empêché les patriotes d'utiliser utiliser la couleur orange comme arme politique, les botanistes hollandais cherchaient avant tout à créer une espèce résistante aux maladies. Ce qui était le cas de la carotte orange, puisqu'un siècle plus tard, elle se retrouvait sur tous les marchés européens. Aujourd'hui, nous sommes les deuxièmes producteurs européens et nous en consommons 10 kilos par an.
De quoi avoir bonne mine et de rester aimable, tout comme vous, Viviane. Et comme les carottes ne sont pas encore cuites, eh bien rendez-vous la semaine prochaine.
Oh, vu la taille de cette carotte, je crois que ton problème de nourriture se résolut.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà de quoi satisfaire l'appétit de Bugs Bunny. En parlant de carottes, Nathalie Gendreau, vous la citez dans votre livre en mentionnant la chef étoilée Anne-Sophie Pic qui lui a redonné ses lettres de noblesse dans ses recettes. Moi, j'aimerais quand même savoir d'où vient l'expression « les carottes sont cuites ». Est-ce que vous le savez ?
En fait, on n'en est pas sûr. Il y a plusieurs possibilités, mais une hypothèse importante, c'est que ça viendrait du fait qu'on disait autrefois avoir ses carottes cuites pour mourir. Laquelle expression vient de se nourrir de carottes, ne se nourrir que de carottes, qui est en fait une moquerie sur les pauvres qui n'ont pas l'argent pour accompagner ces carottes d'un morceau de viande.
Et quand on n'avait plus de carottes, on n'avait plus de radis non plus. Bon, on va en rester là. En tout cas, voilà pour l'explication. Les carottes sont cuites. Nathalie Gendreau, co-auteur de 201 expressions à connaître, c'est publié chez Flammarion. Et sans vous faire tirer l'oreille, eh bien, on vous retrouve pour d'autres origines. À tout de suite.
Tout doux, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Belletti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invitée du jour, Nathalie Gendreau, romancière, metteuse en scène, co-auteur avec l'humoriste Guillaume Meurice du fin mot de l'histoire, soit 201 expressions à connaître pour épater la galerie. C'est un ouvrage qui est paru chez Flammarion. Alors dans l'origine de ces expressions tombées dans le langage courant, outre la religion, la géographie ou l'argent, il y a aussi l'école.
Ce fils de pépin, le bref, nous donne beaucoup d'ennuis et nous avons sans grief contre lui.
Voilà, sacré Charlemagne qui a mis France Gall à bonne école. Alors justement, en parlant d'école, Nathalie Gendreau, il y en a qui voudraient bien la sécher, à savoir faire l'école buissonnière. D'où vient cette expression bucolique ?
Alors l'école buissonnière, on l'a fait depuis le XVIe siècle. Si on y réfléchit, qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle ? C'est surtout les guerres de religion. Et donc en fait, ça vient du moment où les protestants ont commencé à mettre des enseignants de leur religion dans les écoles. Et évidemment, ça a déplu pouvoir en place, au pape et au roi qui ont réagi. Et qui ont interdit formellement les protestants d'enseigner, lesquels ont commencé à faire des écoles en plein champ, vraiment cachées dans les buissons. Et ça a duré assez peu de temps finalement, puisque quelques décennies plus tard, il y a eu l'édit de Nantes et ils n'avaient plus à se cacher dans les buissons. Et donc l'expression qui était quand même un peu subversive est passée à une petite blague d'enfant.
Voilà, pour sécher les cours, voilà pour cette explication fourragère. Alors autre domaine où on fleurit certaines expressions, bah, ce sont des objets, comme par exemple avoir une marotte, ça désignait une poupée fixée sur le bâton d'un bouffon du roi, être au taquet, le taquet c'était une pièce de bois clouée pour arrêter le mouvement d'une autre pièce, comme une porte, être sur la sellette, hein. Un certain président de fédération sportive connaît bien, un petit tabouret très droit et très inconfortable où l'on faisait asseoir un accusé, mais il y a aussi ceci.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir.
Être au bout du rouleau, comme ici François Damiens, complètement épuisé. Une expression qui aurait une origine théâtrale. Expliquez-nous, Nathalie.
Oui, alors là, il faut faire un peu d'étymologie. Le rouleau, c'est en latin rotulus. C'est on dit d'abord le rôle. Et qu'est-ce qu'un rôle ? C'est au départ, non pas un rôle de théâtre, mais surtout le texte noté sur un papier qui est entouré autour d'un petit cylindre de bois, et ça, c'est le rôle. En général, c'est donc un rôle de théâtre, et quand il est petit, on dit un rôlet. Et donc quand un acteur de théâtre est au bout de son relais, ça veut dire qu'en fait il sait plus quoi inventer sur scène, il est allé un peu au bout de son rôle, il sait plus quoi faire, quoi inventer, quoi improviser. Être au bout de son rôle, c'est d'abord ça. Et puis ça a dérivé vers la fatigue finalement.
Vers la fatigue, ne plus savoir quoi dire, quoi exprimer. Voilà pour cette explication. Alors Nathalie Gendreau, si vous n'êtes pas encore au bout du rouleau, on va détailler encore d'autres citations. Mais le mardi, on s'intéresse aussi aux séries télé hein, qui se bousculent au portillon sur les plateformes. Alors je ne sais pas si nous avons notre chroniqueuse, notre experte en série. Ben moi, je vous propose. Ah si, ben on vient juste de la voir. Ben ça tombe bien. Pauline Harré, notre experte. Et aujourd'hui, avec elle, eh bien, on va se replonger dans le temps.
Winter is coming.
Cher Winston.
Votre Majesté.
Je m'appelle Tokyo.
C'est marrant, vous parlez comme dans une série.
Tout doux, l'actu des séries.
Et bonjour, Pauline.
Bonjour Vincent.
Alors aujourd'hui, retour dans le temps et en Italie avec une femme particulièrement déterminée, Lydia fait sa loi. C'est une série de Guido Luculano et David Orsini. Mais qui est donc cette Lydia ?
Lydia Poète, pour être précise. Alors c'est une jeune femme originaire de Turin et contrairement à son nom, elle ne fait pas dans la poésie. Non, elle se bat pour avoir le droit d'être avocate. Mais problème, nous sommes à la fin du 19e siècle et si Lydia a obtenu l'autorisation d'exercer par l'ordre des avocats de Turin, le procureur général du roi, lui, a révoqué cet agrément. La raison, oh, c'est une histoire de fou, il craint que ses cycles menstruels et ses organes ne l'empêchent de travailler de façon éclairée.
Effectivement, c'est une histoire de fou. Donc Lydia ne peut plus défendre ses clients, mais j'imagine qu'elle ne s'avoue pas vaincue pour autant.
Vous pensez bien, Lydia Poète se tourne vers son frère qui est avocat lui aussi. Elle travaillera donc les dossiers de ses clients et laissera son frère argumenter en étant une sorte d'assistante pour lui. Alors chaque épisode nous présente un nouveau cas d'étude en parallèle de sa bataille pour retrouver son inscription officielle au barreau. Je vous propose un extrait de la bande-annonce.
Tu ne peux aucunement exercer.
Je le sais. C'est pour cela que je te propose de devenir ton assistante.
Non, les femmes ne doivent pas s'occuper des questions légales. Et du reste, votre père pensait la même chose.
Papa, je te conseille de ne pas le mêler à cela.
Tu es trop cabochard, Lydia. Tu ne sais pas rester à ta place.
Je ne veux plus jamais avoir l'impression de m'être trompée. Plus jamais.
Arrêtez-vous.
On peut te faire confiance ? Vous n'avez pas d'autre choix.
Voilà, extrait de la bande-annonce de Lydia fait sa loi, une série qui est adaptée d'une histoire vraie d'ailleurs, où une jeune juriste a pu exercer grâce à son frère.
Oui, alors je ne sais pas si dans la réalité on ressentait un peu hein, cet attachement familial entre les deux protagonistes, même si on entend bien que le frangin n'est pas franchement convaincu. Avocate, vraiment. Bon, toujours est-il qu'il l'a bien autorisée à travailler pour son cabinet dans la vraie vie, et là Lydia Poète a dû attendre 1919 pour devenir la première femme avocate d'Italie. Elle était alors âgée de 65 ans. Et en Italie, le droit de vote a d'abord été accordé aux femmes sous une forme locale et partielle. On était en 1925, mais bon, ça... C'est encore une autre histoire.
Voilà, soit 20 ans avant que les femmes puissent aussi voter en France. Lydia fait sa loi, l'histoire vraie de la première avocate italienne à découvrir donc dès maintenant sur Netflix. Merci Pauline et vous n'aurez pas besoin de mon autorisation pour revenir la semaine prochaine. À bientôt.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, Lydia fait sa loi. Je ne sais pas si c'est une série qui vous tenterait, Nathalie Gendreau.
Bah écoutez, je l'avais effectivement repéré il y a quelques jours sur Netflix.
Oui.
Je suis assez fan de voilà
de l'histoire
séries italiennes,
aussi.
De l'histoire. Voilà. Oui. Et puis on y retrouve un petit écho dans le bouquin à la page Les Anglais ont débarqué.
Les Anglais ont débarqué pour pour signifier l'arrivée, d'une certaine forme de règle de vie, si je puis dire, sans rentrer plus dans le détail. Lydia Poète, une femme forte, et bien justement dans un ménage, quand Madame prend les commandes, on dit qu'elle porte la culotte. Porter la culotte, ça vient d'où cette expression culottée et vestimentaire ?
Alors, porter la culotte, c'est une expression qui date de la période pré-révolutionnaire. Qu'est-ce qu'une culotte ? En réalité, c'est un habit de roturier. Non, pardon. C'est un habit de noble, d'aristocrate. Ouais. Et le roturier porte le pantalon. Donc la culotte, c'est ce vêtement assez élégant qui se resserre sur le genou et qui est suivi ensuite par un bas de soie. Et évidemment, ce sont jamais les paysans qui portent la culotte. Donc en réalité, porter la culotte, ni les paysans, ni les révolutionnaires ne portent jamais la culotte. Et c'est pour ça que ils ont pris le nom de sans-culotte pendant la Révolution.
Et pourquoi porter la culotte, ça a, disons, un aspect un petit peu, machiste, porter la culotte ou féministe, enfin, pourquoi cette connotation un petit peu sexiste?
En fait, assez rapidement, c'est devenu un synonyme un peu du pantalon, associé aux hommes. Mais en réalité, au départ, c'est vraiment un accessoire aristocratique.
Donc, porter la culotte, ça voulait dire être le maître chez soi, hein, si je traduis cette expression.
Oui, c'est ça. Sachant que c'est un peu finalement une ironie de l'histoire, parce que avant la Révolution, dans un foyer de paysans, personne ne porte la culotte.
Bon, en parlant de féminin et masculin, il y a un petit côté aussi misogyne dans les expressions françaises. On dit être bon prince pour quelqu'un qui sait être généreux ou magnanime. Par contre, faire sa princesse, c'est être une pimbèche. Je sais pas si ça vous agace, ce genre de distinction, Nathalie Gendreau.
Je dirais pas, on peut dire ça, mais en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans apprendre, l'idée d'apprendre l'origine des expressions, c'est qu'il ne faut pas oublier que les expressions sont de la pensée préconstruite, de la pensée toute faite, qui a été forgée en des temps parfois très anciens, des temps qui pensaient autrement. Et c'est vrai qu'on peut y retrouver beaucoup de pensées racistes, misogynes, j'en passe. Et en fait, effectivement, on n'a pas toujours envie de tenir ce genre de propos. Et donc, ça peut être intéressant de le savoir pour savoir ce qu'on dit quand on parle, en fait.
Ouais, il faut quand même bien resituer dans le contexte, hein, comme on dit.
C'est ça. Et en l'occurrence, c'est amusant de voir que on disait être bon prince, mais au départ, on disait également être bonne princesse. Et puis finalement, petit à petit, avec le temps, voilà, on a retenu que le bon prince.
Ouais. Ou être
grand
seigneur.
Princesse,
ouais.
Une princesse, on préfère
des caprices.
Que ce soit une pimbèche.
Voilà, exactement. Nathalie Gendreau qui nous apprend le fin mot de l'histoire sur l'origine de quelques 200 expressions du langage courant. On vous retrouve pour continuer juste après notre page musicale. Et après Gainsbourg, bah, vous nous proposez l'un de ses inspirateurs, c'est Boris Vian, Les Joyeux Bouchers. Pourquoi Vian? Et puis ce titre, j'allais dire carnassier, Nathalie Gendreau.
Pourquoi Vian? Enfin, c'est un petit clin d'œil au fait qu'une chanson de Boris Vian a été censurée, Les Déserteurs. Une très belle chanson d'ailleurs. Et puis cette chanson-là, en l'occurrence, parce qu'elle est plus rigolote et le livre se veut amusant. Et puis, vous entendrez à la fin de la chanson qu'il évoque « Tiens, voilà du boudin ».
Tiens, voilà du boudin. Donc on en arrive là aussi l'explication. On écoute Les Joyeux Bouchers et on se retrouve tout de suite après.
C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme hack. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne. Demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Les joyeux bouchers de Boris Vian, le choix sanguinaire de Nathalie Gendreau, co-auteur avec Guillaume Meurice du fin mot de l'histoire, soit 201 expressions expliquées, est tombé dans le langage courant. On entendait la fin de la chanson « Tiens, voilà du boudin ». Alors « Tiens, voilà du boudin », je crois qu'il est temps de rectifier cette expression qui n'a rien à voir avec de la charcuterie, hein, Nathalie Gendreau.
Rien à voir, en réalité, c'est l'hymne de la Légion étrangère. Et en fait, c'est le boudin, pour eux, c'est la toile de tente qu'ils roulent très très serrée et qu'ils mettent sur leur barda, ça forme un boudin.
Voilà, tout simplement l'explication du boudin, donc la tente pour les légionnaires. Alors on parlait de boucher, c'est l'occasion d'évoquer toute une série d'expressions concernant des animaux, comme par exemple il y a haro sur le baudet, il y a baillé aux corneilles, il y a la queue le signifiant loup en ancien français, hein, c'est ce qu'on apprend dans votre livre. Mais il y a aussi ceci, un petit indice sonore. Voilà, vous avez reconnu le glou-glou du dindon, être le dindon de la farce, une expression qui signifie être la victime moquée d'une plaisanterie. Et le moins qu'on puisse dire, Nathalie, quand j'en ai lu l'origine, c'est que les dindons sont tombés sur un sacré bec et ça fait froid ou plutôt chaud dans le dos. Expliquez-nous l'origine de cette expression et puis je recommande aux parents d'éloigner aussi les enfants du transistor ou du poste pendant quelques instants. Expliquez-nous cette expression, le dindon de la farce.
Oui, alors les dindons ont fait les frais vraiment de farces pas très fines pendant presque un siècle. C'est un jeu très cruel en fait qu'on a pratiqué, qui s'appelait le balai des dindons. Donc dans des fêtes privées, chez les gens, des seigneurs et sur les foires aussi, on montait des tréteaux, on montait des balais de dindons. Alors qu'est-ce qu'un balai de dindon ? On fait un petit théâtre avec vraiment comme un guignol, avec des petits rideaux, une scène. Mais sous la scène, on met des charbons ardents. Et donc on fait monter les dindons sur la scène, qui est une plaque de tôle en fait. Et puis on leur met du grain, donc ils commencent à picorer leur grain. Et puis l'orchestre joue des danses. Et au début, et on fait des petites danses baroques. Et puis de plus en plus on dit amelé, parce que les pauvres dindons jettent leurs pattes dans tous les sens, le sol chauffe. Et donc l'orchestre, il faut imaginer que l'orchestre fait des danses de plus en plus endiablées, qui essayent de suivre le mouvement des dindons. Voilà, on est au sommet de
la cruauté animale.
De l'horreur, oui. Ouais,
bien avant ce qu'on pouvait voir dans les abattoirs. Donc les dindons qui n'arrivaient plus à poser leurs pieds et donc dansaient dans des danses effrénées pour ne pas se faire brûler. Moi, je pense que ça doit faire réfléchir avant de manger de la volaille, maintenant que vous nous avez expliqué ça, le dindon de la farce. Autre source d'inspiration dans ces expressions, alors ça concerne des personnes. Impossible n'est pas français, alors ça vient de Napoléon, de l'autre. L'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, c'est dû à Danton. Par contre, il y en a d'autres qui restent méconnus, comme être chauvin. Ça m'a vraiment surpris. Expliquez-nous d'où ça vient, chauvin.
Alors, être chauvin, c'est en fait un nom propre au départ. C'est un certain monsieur Chauvin, Nicolas Chauvin, qui nous vient du Premier Empire. Hein, donc, il est en fait une sorte d'allégorie de la gloire de l'Empire. Et donc, en fait, on l'a célébré comme ça, ce soldat si courageux qui a suivi son empereur toute sa vie jusqu'au bout, qui dormait par terre devant sa chambre avant qu'il parte pour Sainte-Hélène. Et puis on s'est souvenu vraiment longtemps de ce soldat chauvin, chanté par les chansonniers de la Restauration. Et puis en fait, il y a 30 ans, il y a un historien qui a fait un petit peu des fouilles et qui a compris en fait que ce monsieur n'a jamais existé et que c'était tout simplement un personnage inventé par les chansonniers. Et puis après, on a oublié que c'était une invention. On y a cru. Et voilà.
D'où
on a,
le
on
chauvinisme.
A cru longtemps.
Voilà. Être chauvin, avoir manifesté un nationalisme fanatique. Et Guillaume Meurice de dire dans votre livre, la France est la nation qui lutte le plus contre le chauvinisme, contrairement aux autres pays qui sont nuls. Voilà pour la citation de Guillaume Meurice. De même qu'on pourrait parler de l'œil de Moscou hein, pour désigner un espion qui vous observe et qui transmet des informations. C'est un homme qui a vraiment existé. Il s'appelait Alexandre Abramovitch. Il était chargé de la propagande en France dans les années 20. Il surveillait notamment la scission donc, entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Et c'est à découvrir dans votre livre. Nathalie Gendreau, on a une tradition dans cette émission. On pourrait presque dire que c'est l'heure de notre petite mise en boîte.
La boîte à tout doux.
Alors, dans les mains, j'ai un petit coffret en bois. À l'intérieur, il y a 18 cartes. Au dos de chacune, il y a une question pour mieux vous connaître. Alors, le principe, il est simple. Je vais battre, et sans brutalité, ce jeu. On va tirer 3 cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante. Vous avez droit à un joker, mais de toute façon, il n'y a rien d'indiscret. Alors, je vais remuer le jeu de cartes. Est-ce que vous êtes prête pour la première? Vous m'interrompez quand vous voulez. Voilà, je remue.
Je suis prête.
Alors, je tiens la carte. À quelle époque auriez-vous aimé vivre?
Ah, c'est intéressant.
Oui, vous qui êtes un peu dans toutes les expressions, dans l'histoire de France et du monde, justement, à travers ces expressions, est-ce qu'il y a une époque qui vous intéresserait plus que d'autres?
Je crois que j'aurais bien aimé voir le XVIIIe siècle, qui est une époque si bouillante, dans tous les sens, vraiment, ça m'aurait beaucoup plu.
Ouais, une époque où on perdait aussi la tête, hein, faut le dire aussi à la fin.
Oui, mais je n'ai aucune origine aristocratique, donc je crois que...
Oui, vous savez, même pas aristocratique, ça ne dérangeait pas grand monde. Donc le XVIIIe siècle, pour toutes les idées des Lumières, Voltaire... Montesquieu,
oui,
etc.
Pour c'est là qu'on a inventé tellement de choses en philosophie, en littérature. Il se passe tellement de choses dans la pensée. C'est là que notre monde, le monde qu'on connaît, est né presque, hein, parce que tout ce qui se passe avant, c'est quand même assez différent. Là, il y a quand même vraiment une charnière. Et puis, il y avait un enthousiasme. Hein, les gens ont vécu cette époque de manière extrêmement forte. Hein, le jour de l'abolition des privilèges, tout le monde pleurait, tout le monde criait. Les gens étaient extrêmement fiers. J'imagine que c'était des moments exceptionnels.
Vous auriez pu être aux premières loges. Alors, je continue de battre ce jeu de cartes. Vous me dites quand vous voulez que je l'interrompe pour une autre carte.
Allez-y.
Alors, on y va. L'objet dont vous auriez du mal à vous séparer, est-ce qu'il y a un objet qui vous tient à cœur, un objet fétiche?
Mon ordinateur.
Oui. Bon, pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'il y a toute votre vie, toute votre science, vos vacances. Oui. C'est vraiment un objet.
Tous mes écrits. Ouais. Oui, franchement, comme je voyage beaucoup, j'ai l'habitude de vivre avec très peu de choses. Je suis assez peu attachée aux objets, finalement. J'aime assez. Je partage ça avec Guillaume Meurice. On en a parlé récemment.
Ouais.
Et c'est vrai que comme on est tous les deux beaucoup dans les trains, on vit avec notre sac à main, l'ordi et puis le portefeuille. Et souvent, on se contente de ça, en fait. On vit avec cerveau.
Vous arrivez à vous déconnecter de temps en temps quand même?
Oui, j'ai aucun problème avec la déconnexion, c'est sûr que la vie artistique demande quand même une présence un peu tout le temps dans la tête. C'est vrai que parfois ça m'arrive de dénouer les choses la nuit, d'avoir une idée.
Et de courir sur l'ordinateur, donc, pour la noter. Pourquoi pas? Bon, allez, on continue avec une dernière carte. Je continue de battre ce jeu. Vous m'interrompez quand vous voulez, Nathalie.
Allez-y.
Alors, je tiens la carte. La qualité que vous appréciez chez les autres?
J'aime la sincérité. J'ai du mal à supporter le manque d'honnêteté, le manque de... Je préfère qu'on me dise des choses négatives et désagréables plutôt que me mentir. Ouais.
Et vous arrivez très vite à savoir les gens qui sont sincères ou pas, ou vous avez une sorte de sixième sens ou pas?
Alors quand j'étais enfant, oui, j'étais très forte pour ça. Mmh. Et puis après, il y a le vernis social qui est arrivé et je trouve que c'est moins le cas maintenant. Ouais. Ouais. Mmh.
Bon, bah, la sincérité comme qualité, si vous voulez séduire Nathalie Gendreau. Voilà pour ces questions de la boîte à questions et on va la fermer. On les rouvrira demain pour notre prochain invité. On va se retrouver dans quelques secondes pour terminer ensemble cette émission.
Doudou avec Vincent Belletti.
Je vous préviens, elle...
Je sais.
Alors, elle déménage, non ? Elle déménage.
Voilà une petite pub 80s pour une motarde très forte de Dijon. Et bien justement, dans votre livre, vous citez des expressions un peu méconnues, comme se prendre pour le moutardier du pape, premier moutardier du pape. Alors moi j'avoue, Nathalie Gendreau, que je n'avais jamais entendu cette expression. De quoi s'agit-il ? Qui est ce premier moutardier ?
Vous n'êtes pas le seul, hein. Personne ne l'a jamais entendu.
Vous ne l'avez pas inventé quand même.
Je ne l'ai pas inventé, mais en fait c'est devenu notre expression fétiche avec Guillaume Meurice, on l'utilise tout le temps maintenant. Mais en fait, il se trouve que j'habite à Avignon et que là-bas il y a une adresse, un restaurant qui s'appelle Le Moutardier du Pape, et puis je me suis demandé pourquoi il s'appelle comme ça. Et en fait c'est une expression ancienne, pas si ancienne, hein, c'était une blague du 19e siècle, on l'utilisait énormément au 19e siècle, même jusqu'au début 20e. Donc vous voyez, finalement, c'est pas si vieux. Et alors, il y a deux hypothèses. Une, que je pense fausse, qui remonte au pape avignonnais. Donc ce serait dû au fait que un pape avignonnais, donc ça veut dire 14e siècle, hein, on est vraiment très loin, aurait aimé tellement la moutarde qu'il aurait créé le métier de moutardier, voilà, c'est ça, la charge de moutardier pour tenir le pot pendant son repas. Ce qui a priori n'est pas crédible parce que on est des siècles avant l'usage de l'expression, donc je pense que c'est pas ça. En fait, j'ai été chercher parce qu'en fait, comme c'est une expression qui n'existe plus, évidemment, les linguistes ne s'y sont pas penchés beaucoup, et donc j'ai été chercher l'origine. Et puis un outil formidable qui s'appelle Gallica et qui permet de rechercher dans la en fait, dans tous les textes, c'est la Bibliothèque nationale de France qui a ça. On peut faire des recherches avec mots-clés. Et en fait, j'ai retrouvé des journaux anciens, des journaux du 18e siècle, qui donnent l'origine de cette expression, qui naît vers 1750. Donc, ce serait probablement un moutardier, c'est-à-dire un producteur de moutarde, vraiment quelqu'un qui fait de la moutarde, comme Maille. Qui est un moutardier de Paris qui s'appelle Paul Savalette et qui avait fait un condiment si délicieux au XVIIe siècle que le bouche à oreille a fonctionné, tout le monde en voulait et c'est remonté aux oreilles du pape à Rome.
Qui en a fait son fournisseur officiel donc.
Voilà, il a fait une grosse commande, il en a fait son fournisseur officiel et c'était vraiment quelque chose de recherché par les moutardiers vinaigriers, c'est-à-dire par exemple Claude Maille était moutardier vinaigrier de la cour de France, de Hongrie et de Russie. Enfin bon, voilà, c'était donc, des brevets très recherchés. Voilà,
et donc pour résumer, moutardier du pape, c'est donc obtenir une charge importante, honorifique, et se prendre pour le premier moutardier, c'est donc être un petit peu arrogant aussi d'une certaine manière, hein, une certaine suffisance, c'est ce que vous voulez dire dans cette expression.
Oui, en fait, c'est surtout que la femme du moutardier est devenue assez prétentieuse.
Voilà.
Elle a été moquée par tout le quartier où elle habitait à Paris, et puis c'est devenu une blague qui est restée.
Voilà, qui est restée. D'autres expressions à découvrir comme être talon rouge ou être logé dans la maison du roi. On arrive au terme de cette émission. 201 expressions à connaître, et pourtant la liberté d'expression a été mise à mal puisque ce livre a failli ne jamais paraître. Hein. Il y a une histoire d'éditeur. Vous le découvrirez en ouvrant ces pages. Le fameux de l'histoire doit soit 201 expressions pour épater la galerie de Nathalie Gendreau et Guillaume Meurice. C'est publié chez Flammarion. Un grand merci Nathalie. Vous pouvez prendre la clé des champs, hein, vous rend votre liberté. Merci aussi à Pierre Samanos et Louis-Martin Fermont, nos deux hussards noirs, non pas de la République mais de la régie technique. Demain, c'est une saxophoniste de jazz que nous aurons le plaisir de recevoir. Elles ne sont pas si fréquentes dans ce métier. Il s'agit de Virginie Dead qui sort un nouvel album, Moods comme humeur. Une belle occasion de découvrir son univers musical et poétique. Merci encore. Je rappelle que cette émission Vous pouvez l'entendre en podcast sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Je vous souhaite d'ailleurs un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et Radio Notre-Dame. Et à demain, même heure, même endroit. À bientôt.